Encore une semaine marquée par une tension persistante au Moyen-Orient malgré le maintien du cessez-le-feu fragile en place depuis le 8 avril. Au cours des derniers jours, les négociations indirectes se sont poursuivies via des médiateurs pakistanais et d'autres canaux, mais sans percée décisive. L'Iran a soumis de nouvelles propositions, notamment sur le contrôle du détroit d'Ormuz, tout en rejetant l'idée d'un accord complet sur le nucléaire, proposition que le président Trump a jugée insuffisante, tout en maintenant le blocus naval américain qui étrangle les exportations pétrolières iraniennes. Du côté iranien, le guide suprême Mojtaba Ramenei, ou ce qu'il en reste, a réaffirmé la détermination de Téhéran à conserver le contrôle du détroit et ses capacités nucléaires et balistiques, tandis que le régime continue de préparer ses forces en prévision d'une possible reprise des hostilités. Sur le terrain, le blocus américain a redirigé des dizaines de navires, privant l'Iran de milliards de dollars de revenus, dans un contexte d'impact économique régional important. En parallèle, des débats politiques font rage aux États-Unis. La guerre déclenchée le 28 février par des frappes israélo-américaines a atteint ce vendredi un seuil critique, l'expiration des 60 jours prévus par la War Powers Resolution. Le président Trump a adressé une lettre au Congrès affirmant que les hostilités ont été terminées grâce au cessez-le-feu en vigueur depuis le 7 avril, estimant ainsi qu'aucune autorisation supplémentaire n'est nécessaire pour poursuivre les opérations actuelles, notamment le maintien du blocus. Une interprétation contestée par de nombreux démocrates et certains républicains qui y voient une manœuvre pour contourner le Congrès. Ce cap des 60 jours ouvre donc un nouveau chapitre diplomatique et juridique incertain, alors que la région reste sur le fil du rasoir. En maintenant le blocus sans autorisation expresse du Congrès et peut-être bientôt en lançant de nouvelles frappes, Trump est-il hors la loi?
Comment? Vous connaissez pas Philippe Fabry? Alors là, on pourra dire que vous êtes à l'abri de comprendre les choses, parce que quand une question se pose, avant de foncer la tête baissée sur les réseaux comme des oiseaux, on prend une dose d'historionomie. Surtout, hésitez pas à en parler à vos amis, ils ont peut-être dans leur malheur le nez collé sur leur bécane à écouter du Salamé ou encore pire du Abirkan. Pour comprendre le monde, c'est sûr, les analyses abondent, il y a 14 experts à 2m50 à la ronde, mais quand il s'agit d'expliquer les États-Unis, soudain tout le monde devient hystérique comme par magie, ou au pire ça plagie, on n'aimera pas qui régurgite, mais bref, pendant que tout le monde s'agite, avec Philippe on s'assagit, on prend du recul, et oui, pendant que tout le monde s'engueule, un tel a dit machin, mais qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils veulent? Au lieu de se faire des nœuds au cerveau et de tout compliquer, avec ses modèles incisifs, Philippe peut tout expliquer. Alors prenez un coca, une étude de cas, Poutine en Europe c'est ambigu, c'est délicat. Ou bien peut-être a-t-on affaire à un impérialiste, un peu revanchard, y'en a quelques-uns dans la liste. Poutine et son livre, il va vous mettre sur la piste, vous aussi bientôt vous pourrez scander Admouligne. Plutôt que du bruit diffus, vous verrez des signes, au lieu de dire des anéries et des platitudes banales, ça s'explique par leur stade dans la construction nationale.
Bonsoir, je suis Philippe Fabry, nous sommes le 2 mai 2026, il est 21h51, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et en commençant, petit rappel, je vous l'aurai affiché comme ceci. Je ne peux pas le déplacer. Je vous la mets comme ça, tant pis, on ne voit pas ma tronche, mais c'est pas plus mal. Le congrès annuel de l'historionomie aura lieu le 14 juin prochain, nous avons désormais la salle. Nous avons le programme et donc vous avez les inscriptions qui peuvent être prises dès maintenant. Et en fait, plus vous les prenez tôt, plus ça nous aidera à organiser les choses correctement, notamment pour la nourriture. Hein. Vous savez que c'est... Alors on a mis, comme on avait fait la dernière fois, 50€ avant le 20 mai, 70€ ensuite. En fait, c'est pas pour que vous payiez 70€, c'est pour vous faire presser et pour que s'il y a des gens qui tardent trop, et ben qu'ils sachent que ça leur coûtera plus cher. Parce que, encore une fois, c'est l'idée de vous faire inscrire le plus tôt possible. Mais avec ça, vous avez les viennoiseries le matin avec le café et le déjeuner inclus. C'est-à-dire il y a toute la bouffe de la journée, en fait, qui est inclus dedans. Donc, l'idée étant d'autofinancer avec la location de la salle, etc. On ne fait pas d'argent là-dessus. Bien. Donc, pensez-y. Je continuerai à faire la pub encore régulièrement. Mais donc, si vous voulez être là, si vous êtes dans le sud de la France et que vous voulez pas vous taper le congrès ailleurs, parce que les autres années, ça continuera à bouger vraisemblablement, profitez-en. Pour le quart sud-ouest, en tout cas, ça sera cette fois-ci. C'est à Toulouse et c'est le 14 juin prochain. Et ça sera l'occasion de préparer, de présenter la sortie de la revue d'histoire théorique, qui est le principal bébé, d'une certaine manière, de la première édition du congrès l'année dernière. Voilà ce que je voulais dire en entrée. Ce soir, donc, j'ai pensé que ça c'était bien de faire un petit sujet, parce que bon, il s'est pas passé grand chose de plus sur le plan sur le plan stratégique, véritablement, hein, ça ronronne, on va dire. Le blocus est maintenu, il n'y a pas de lancement d'opérations supplémentaires, même si il y a la poursuite de déploiement de forces américaines dans la région. On dira peut-être deux mots plus tard dans l'émission du reste de la situation stratégique mondiale, je pensais que c'était intéressant, notamment sur le plan de l'évolution des institutions américaines elles-mêmes, de revenir sur cette question des pouvoirs de guerre, notamment, puisque c'est le sujet et c'est l'occasion. Alors, c'est un sujet un peu technique, je ne vais pas rentrer trop dans la technique pour pas que ce soit saoulant, mais un petit peu quand même, parce qu'il faut bien comprendre de quoi on parle, parce que finalement, même dans les médias, vous avez entendu parler, je pense, beaucoup de ce délai, ce fameux délai de 60 jours, sans savoir bien de quoi il s'agit, et sans savoir bien exactement qu'est-ce que c'est les pouvoirs de guerre du président américain. Et c'est toute la question. Parce qu'en fait, le truc, c'est que personne ne sait vraiment, et c'est bien le cœur de tout ce qui va se passer, en fait, aux États-Unis. Donc avant de partir dans tout ça, je rappelle de mettre un petit pouce, c'est important pour l'algorithme. Je vous avertis aussi qu'il est plausible que je ne fasse pas d'émission la semaine prochaine, parce que je serai à l'autre bout de la France pour le mariage d'un ami. Donc en fonction, je pense que je ferai des formats flash dans la semaine, mais pas autre chose. Je vous encourage d'ailleurs à aller voir les formats flash, hein, si vous êtes passé à côté, c'est un moyen de faire des petites notes rapides sur des sujets comme ça qui méritent pas des gros lives. Et j'avais autre chose à dire, mais je ne sais plus quoi, ça me sort de l'esprit. Pas grave, je le dirai si j'y pense plus tard. Si, bien sûr, on est le live hebdomadaire, donc ça sera suivi par le live privé des souscripteurs, dans lequel je répondrai à leurs questions. En général, j'en traite entre 20 et 30, autour de ça. Voilà. Donc, les pouvoirs de guerre, puisque c'est ça la question qui est posée. Comment est-ce que ça se calibre, en fait ? Quel était ce qui était attendu de Donald Trump à ce stade-là ? En fait, tout ceci vient du vote d'une loi par le Congrès américain en 1973. Et cette loi impose au président américain de prendre 48 heures après le lancement de n'importe quelle opération militaire qu'il a faite pour informer le Congrès, pour la notifier au Congrès. Et à partir de là, s'écoule un nouveau délai de 60 jours, au terme duquel il doit aller demander au Congrès. Qu'est-ce que ce bruit ? Excusez-moi, j'ai un son dans l'oreille qui est sorti de truc, j'ai coupé ça, c'est pénible. Voilà. Donc au bout de 60 jours, ils doivent demander l'autorisation au Congrès, soit lui dire « ben ça y est, c'est terminé, on s'est retiré », soit demander l'autorisation de poursuivre les opérations, et éventuellement de faire une déclaration de guerre formelle, puisque c'est le Congrès qui a ce pouvoir-là, d'accorder un délai de 30 jours supplémentaires, mais ce délai de 30 jours supplémentaires est censé servir à se retirer en bon ordre. Voilà, l'idée étant que il faut pas que si le Congrès refuse, ça s'arrête tout de suite, quoi. Il faut pas que ça mette en danger les forces armées américaines. Donc l'idée c'est d'interrompre, voilà. Et donc c'est ça que Donald Trump est allé pas demander d'ailleurs, puisque de fait il l'a pas demandé. Il est allé expliquer au Congrès, non mais en fait c'est bon, j'ai terminé. Voilà, merci, bisous. Alors, naturellement, ça, du coup, se pose la question de savoir est-ce qu'il contourne véritablement le problème, est-ce qu'il se met hors la loi. Et là, on entre en fait dans ces subtilités de la question des pouvoirs de guerre aux États-Unis, parce que ce sont des choses qui en fait sont pratiquement pas réglées et très mal réglées, notamment par la Constitution américaine. Il faut savoir que la Constitution américaine, en fait, il y a deux choses en fait dans la Constitution. Il y a dans l'article 1, section 8, je vais chercher la ref, c'est le Congrès auquel la Constitution donne le pouvoir de déclarer la guerre et de lever et financer les armées, puisque c'est question de finances, et de réglementer les forces armées. Donc c'est censé être le Congrès qui a la haute main, voilà, pour l'organisation de la chose militaire et son financement. Mais l'article 2, section 2, désigne le président comme commandant en chef des forces armées. Et la pratique lui reconnaît le fait de pouvoir gérer l'urgence notamment, puisque par définition la chose militaire souvent se pose en urgence, et donc il peut agir sans l'aval du Congrès. Bien. Et donc le problème, c'est que pendant longtemps on s'est tenu à des choses comme ça, et pendant la guerre du Vietnam notamment, se sont posées un certain nombre de difficultés, puisque c'est à ce moment-là qu'on a beaucoup parlé notamment de la présidence impériale, on en parlait déjà un petit peu sous Franklin Roosevelt pendant la Seconde Guerre mondiale. On a pensé que Nixon notamment prenait un petit peu trop ses aises et commettait des abus de pouvoir, puisqu'en particulier, alors qu'il y avait la guerre au Vietnam, puisqu'il en héritait, c'est pas lui qui l'avait lancé, c'était Kennedy. Il est élu en 1968, il arrive et lui, il commence à partir. C'était assez trumpien d'ailleurs dans son idée, c'était en gros, c'est pas ma guerre, on va vietnamiser, c'est-à-dire on va faire en sorte que ce soit les forces vietnamiennes qui se battent contre les forces vietnamiennes, on sera en soutien, mais on va se retirer, nous. Et en réalité, il a fait exactement l'inverse, puisque pendant toute sa présidence, enfin, pendant l'essentiel de la première moitié de sa présidence, il a commencé à étendre, en réalité, les bombardements. Et notamment à non seulement bombarder, étendre les opérations militaires vietnamiennes, mais surtout les étendre chez les pays voisins, notamment au Cambodge et au Laos, avec des bombardements et ensuite même des opérations au sol, au Cambodge en 1970. Et donc tout ça, ça a été à l'époque critiqué par le système politique américain, et avec l'idée que c'était de l'abus de pouvoir exécutif, qu'il ne pouvait pas faire ça, il n'avait pas été donné mandat de faire la guerre au-delà du Vietnam. Et donc, en plus, derrière ça, vous avez eu toute la fin de la présidence Nixon, avec le retrait effectif des troupes du Vietnam dans le psychodrame que vous connaissez. Il y a eu en plus le scandale du Watergate qui a affaibli Nixon, et le Congrès était à ce moment-là à majorité démocrate avec, vous le savez, un mouvement anti-guerre extrêmement fort et très critique de l'exécutif après le Watergate. Donc dans les mœurs, si vous voulez, à l'époque, dans la mentalité générale, il y avait un... Il faut arrêter avec la guerre, c'est insupportable, il faut mettre des garde-fous. Et deux, l'exécutif trop puissant, c'est problématique. Et donc naturellement, ça a porté un mouvement au Congrès. Et donc c'est là que vous avez eu la mise en place de cette loi qui a été votée dans les deux chambres du Congrès, à la Chambre des députés, des représentants et au Sénat. Nixon a mis un veto, parce que je rappelle que le président des États-Unis peut mettre des vetos. C'est-à-dire qu'il peut dire non, la loi ne s'appliquera pas, puisque c'est lui qui est en charge de l'exécutif, donc de l'application des lois. Rien n'oblige le président des États-Unis à appliquer les lois, il peut refuser. Donc ça s'appelle le veto. Pour surmonter le veto du président des États-Unis, il faut un vote aux deux tiers du Congrès. Donc autant vous dire que ça n'arrive pas souvent. Depuis le début de l'histoire des États-Unis, il y a eu à peu près 2500 veto présidentiel, souvent très concentré sous certaines présidences. Je crois qu'il y en a un bon tiers, ça a été juste sous Franklin Roosevelt, hein, qui a été quasi dictateur en fait pendant sa présidence. C'était un temps de guerre aussi, enfin avant il y avait le New Deal et tout, c'était beaucoup il a beaucoup gouverné comme ça. Et vous n'en avez qu'une centaine qui a été surmontée effectivement par le Congrès, donc 1 sur 20. Donc c'est vous dire la puissance du veto présidentiel aux États-Unis. On ne se rend pas compte, hein, mais la puissance présidentielle aux États-Unis est véritablement extrême. Ce que je souligne notamment dans Hail Caesar, en expliquant à quel point c'est pas pareil que ce qui se fait en Europe, même en France. Il n'y a qu'en France que le président, sur la chose militaire, et seulement sur la chose militaire, a un pouvoir équivalent, voire supérieur, même éventuellement à celui du président des États-Unis. Mais pour tout le reste, non. Pour tout ce qui est civil, non. Alors qu'aux États-Unis, il a, on va dire, un petit peu moins de pouvoir, mais très légèrement moins de pouvoir, que le président de la République française. En revanche, il a énormément de pouvoir sur tout le reste, aussi. Et donc, Nixon a mis son veto. Et cette loi fait partie des rares cas, donc, puisque c'est moins d'un sur 20, où le Congrès a effectivement voté à la majorité des deux tiers pour le passage de la résolution. Et donc, la résolution a été est passée. Voilà. Et donc, depuis, on considère que cette résolution sur les pouvoirs de guerre fait autorité, finalement, dans l'ordre du système américain. Mais que ça fait autorité, alors que ça pose quand même énormément de questions, et il n'y a absolument rien de clair là-dessus. Pourquoi ? Ben, parce que, comme je vous l'ai dit, les pouvoirs respectifs du Congrès et de la présidence sont prévus par la Constitution. Et ce que je vous en ai dit, c'est-à-dire c'est le Congrès qui organise les forces armées, les finances et qui déclare la guerre, et le président, lui, en gros, utilise la force armée, eh bien, ces dispositions de la Constitution sont extrêmement floues et laissent énormément de part à l'interprétation. Bien. Alors, le Congrès a pu décider de voter cette loi de 1973, qui est contraignante pour le président des États-Unis, en l'obligeant à notifier et ensuite à demander une autorisation au bout de 60 jours. Mais la réalité, c'est que la Constitution ne donne pas ses pouvoirs au Congrès. C'est-à-dire que ces pouvoirs, le Congrès cherche à se les arroger par cette loi de 1973. Or, vous avez tout un tas de gens aux États-Unis, c'était le cas de Nixon et ça a été le cas d'autres présidents américains à sa suite, qui ont pu considérer que cette loi était tout simplement inconstitutionnelle. Puisque, par cette loi, le Congrès prétend mettre en place des obligations de l'exécutif envers le législatif qui ne sont pas prévues par la Constitution. Et c'est vrai que c'est clairement dans ça que ça consiste. C'est une loi du Congrès. Donc normalement, le Congrès ne peut pas juste faire des lois pour obliger le président à faire des trucs, même s'il les vote aux deux tiers. Il faudrait éventuellement un amendement à la Constitution des États-Unis pour ça. Et il n'y en a pas eu. Donc, ça, si vous voulez, c'est déjà un premier gros problème. C'est-à-dire que cette loi, elle-même, est potentiellement illégale ou inconstitutionnelle. Et le truc, c'est qu'on ne le saura jamais vraiment parce que la Cour suprême est très très réticente à l'idée de trancher cette question-là. Parce qu'elle considère, et elle a sans doute raison en grande partie, qu'en réalité c'est un problème politique. C'est pas un problème juridique de savoir qui va faire quoi. Et qu'en fait ce n'est même pas, ça ne peut même pas être décidé au vu de la Constitution. Et de fait, Donald Trump donc, et les autres présidents avant lui peuvent décider d'en avoir grosso modo rien à foutre de la résolution sur le pouvoir de guerre, mais ça a un coût politique très important. Parce que du coup, ben, vous avez l'air d'une espèce de dictateur, vous avez l'air d'en avoir rien à foutre du Congrès, donc ça crée des problèmes non seulement avec l'opposition bien sûr, mais aussi éventuellement avec vos propres députés. Et donc si vous voulez, c'est plutôt un problème encore une fois de politique intérieure, d'équilibre, de symbolique, de message que vous envoyez, et donc in fine de la perception que l'opinion publique aura de ce que vous faites, que, authentiquement, d'obéir ou pas à la Constitution. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors, du coup, on se retrouve dans cette situation de flou, encore une fois. C'est-à-dire que le président peut considérer que ça vaut pas le coup politique de se mettre à dos le Congrès pour poursuivre, et donc à ce moment-là, il va se plier à la résolution sur le pouvoir de guerre. Il peut considérer, au contraire, que ça vaut le coup de se mettre à dos le Congrès là-dessus, et donc en avoir rien à faire de ce que dit le Congrès. Mais il peut considérer aussi que je sais pas, ça vaut le coup d'aller rechercher l'approbation du Congrès là-dessus, et donc aller la chercher. Donc tout est ouvert. Et en l'occurrence, vraisemblablement, le choix qu'a fait Donald Trump, c'est un choix qui est lui-même assez flou, c'est-à-dire de ne pas refuser en fait ou de dire de ne pas s'asseoir explicitement sur la loi sur les pouvoirs de guerre, mais de trouver une combine oratoire, rhétorique presque, pour expliquer que ben en fait il n'y a même pas besoin de suivre la résolution pour vos pouvoirs de guerre, ce qui est une tentative si vous voulez de désamorcer cette question qui est encore une fois uniquement politique. C'est pas juridique, c'est pas légal. Il peut pas arriver quelque chose d'embêtant légalement au président des États-Unis pour ça. En tout cas, pas à ce stade. Tout ce qui peut lui arriver, c'est un désagrément politique. Et un désagrément politique, vous pouvez essayer de le contourner par des arguments politiques, c'est-à-dire par du verbe, par de la rhétorique. Et c'est vraisemblablement ce qu'il est en train d'essayer de faire. Donc ça vous montre aussi que d'une certaine manière, il faut pas trop grossir l'importance de ce sujet-là. Vous savez, quand on a dit, attention, présenter ça comme une espèce de deadline pour le président des États-Unis, ça ne marche pas. Alors, si on veut faire un petit comparatif rapidement avec ce qui se passe, si vous regardez... alors, le truc, encore une fois, c'est, si vous comparez avec la France, vous ne verrez pas de grande différence, parce que, encore une fois, le pouvoir militaire du président des États-Unis et du président français, pardon, est très très proche de celui du président des États-Unis, ce qui est normal parce que c'est un pouvoir très ancien régime. Et c'est le cas notamment pour le pouvoir des États-Unis, hein, je rappelle. Et en fait, c'est un révélateur aussi, cette question des pouvoirs de guerre, du fait que le régime américain n'est pas un régime, évidemment pas un régime parlementaire, mais pas un régime similaire à ce qu'on trouve normalement en Europe. Mais c'est le cas aussi de la France en particulier. Donc en France, c'est encore plus gros, parce qu'en France, le président de français, il a juste à informer et demander une autorisation au Parlement si, entre le moment où il notifie et le moment où ça continue, se sont écoulés 4 mois. Donc vous voyez qu'il a deux fois plus de temps que le président des États-Unis. Donc il a un pouvoir qui est quand même plus, plus large. Et il a un pouvoir extrêmement, extrêmement concentré là-dessus. Voilà. Mais si vous voulez comparer avec une vraie démocratie parlementaire, c'est-à-dire on va dire le Royaume-Uni, parce que comparer avec l'Allemagne, ça n'aurait pas grand sens, puisqu'ils ne sont pas très habitués des opérations militaires, donc il faut comparer avec des choses qui sont comparables, et donc prenons encore le Royaume-Uni. Le chef de l'armée au Royaume-Uni, c'est le chef du gouvernement, c'est-à-dire c'est le Premier ministre qui décide qui envoie. Le chef des armées, virtuellement, symboliquement, c'est le roi, mais celui qui décide d'utiliser ou pas la force, c'est pas le roi, c'est le Premier ministre. Alors, il a la capacité à déployer en urgence, etc., il l'a autant, en fait, que le président français ou que le président américain. Et il n'y a même pas véritablement de vote obligatoire devant le Parlement. Donc, à la limite, sur le lancement des actions, c'est aussi facile. En revanche, le problème, c'est que, comme l'existence même du Premier ministre dépend du fait qu'il a une majorité au Parlement, parce que le gouvernement est responsable devant le Parlement, et sinon le gouvernement tombe, eh bien ça limite son pouvoir. Parce que s'il refusait ensuite de discuter avec le Parlement sur la menée de la guerre, etc., le Parlement peut le faire tomber. Alors que le président de la République française, et encore plus le président américain, ne peut pas tomber face au Congrès. Voilà, le Congrès ne peut pas le faire tomber pour ça. Sauf à imaginer une procédure d'impeachment, mais c'est quelque chose qui est encore plus compliqué. Et normalement, ce n'est pas pour ce genre de choses. Donc il faut bien voir que sur cette question des pouvoirs de guerre, on est encore une fois face, peut-être typiquement, à l'un des plus gros flous de la Constitution américaine. Et ça se rapproche d'autres choses dont j'ai déjà parlé, mais c'est l'occasion d'en parler, parce que ça fait partie de cette mutation, finalement, aussi, de la présidence américaine. On a déjà vu des présidents qui n'en avaient pas grand-chose à faire de cette question des pouvoirs, des war resolution power. Alors qu'ils sans forcément s'asseoir dessus, mais trouvaient toujours des astuces pour poursuivre les opérations, arrêter, reprendre, etc. Mais ça, c'est tout à fait lié à une question dont je parle, à Al Caesars, dont je vous ai déjà parlé, qui est justement le déséquilibre interne des pouvoirs dans la Constitution américaine. C'est-à-dire que, in fine, la figure dominante, c'est quand même la figure présidentielle. Et grosso modo, même si on prévoit des garde-fous, moi je suis partie des gens qui pensent que le discours, vous savez, sur la Constitution américaine extrêmement bien équilibrée, avec les check and balances, etc., je pense qu'assez largement, c'est du flan. Vous savez, il y a cette anecdote qui est assez connue du mathématicien Gödel, quand il est de mémoire, il avait immigré aux États-Unis et donc il avait fait ses entretiens pour obtenir la naturalisation, je crois. En tout cas, avec un. Et donc il devait répondre à un certain nombre de questions sur le régime en place, etc. Et alors, je ne me souviens plus du détail, vous chercherez, l'anecdote est connue, hein, mais enfin, il était venu à dire que grosso modo, malheureusement, parce que quand on lui disait, mais ici on est une démocratie, il avait expliqué que grosso modo, non, il pourrait arriver ce qui se passait en Allemagne, ce qui se passait dans un certain nombre de pays en Europe, c'est-à-dire qu'il y ait une transformation du pays en dictature finalement. Mais l'anecdote n'a jamais dit quelle était la faiblesse qu'avait identifié Gödel dans la Constitution américaine. Et beaucoup ont souvent pointé le fait qu'il avait, parce que ben, comme c'est quand vous êtes face à quelqu'un qui a des capacités logiques extraordinaires, qui étaient celles de ce mathématicien, Vous vous dites, il a peut-être vu quelque chose que personne n'a vu. Et donc, mais ce qui est mentionné souvent comme, comme tentative d'explication, c'est le fait que il est possible d'amender la Constitution américaine. Moi, j'ai toujours trouvé ça assez insatisfaisant comme explication, parce que le fait qu'il y ait juste quelque part écrit qu'on peut changer, il ne faut pas être un brillant logicien pour voir que ça, ça fait un problème. Donc, à mon avis, ce qu'il avait vu, et ce qui serait plus clair, c'est le problème dynamique interne qu'il y a dans la Constitution américaine, c'est-à-dire que, au fond, la puissance présidentielle est une espèce de trou noir, à long terme. Et que la force du commandant en chef fait que, en fait, c'est un pouvoir qui peut finir par s'imposer à tous les autres contre-pouvoirs intérieurs. Et de fait, on a vu depuis le début de l'histoire américaine un renforcement quasi continu et de plus en plus considérable de cette puissance présidentielle américaine. Je vous parlais tout à l'heure de Richard Nixon. C'est à peu près à ce moment-là qu'on a parlé de plus en plus de cette théorie que j'ai déjà mentionnée devant vous, qui est la théorie de l'exécutif unitaire. Qu'est-ce que c'est que l'idée que la théorie de l'exécutif unitaire ? C'est que le pouvoir, puisqu'on est dans une séparation stricte des pouvoirs, le pouvoir du président des États-Unis sur la branche exécutive du pouvoir, à la tête de laquelle il est censé être, est un pouvoir absolu. C'est-à-dire que le pouvoir du président des États-Unis sur toutes les branches exécutives, c'est-à-dire l'administration, mais aussi les agences, la CIA, etc., est un pouvoir absolu. Il peut décider de faire ce qu'il veut. Et surtout, ça veut dire que, d'une certaine manière, rien de ce qui peut être fait par l'exécutif ne peut être... il ne peut y être porté obstacle par le législatif, notamment par les lois du Congrès, typiquement une loi sur la résolution des pouvoirs de guerre, parce que ce serait contraire à la Constitution. Parce que la Constitution ne dit pas que le Congrès, par la loi, règle la manière dont le président des États-Unis, dont les administrations doivent se comporter. Ben, à partir de là, à ce moment-là, ça veut dire que vous ne pouvez pas opposer finalement la loi du Congrès au président des États-Unis. Et à ce moment-là, ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que le Congrès n'a pratiquement aucun pouvoir, à la fin. C'est ça, ce vers quoi vous allez. Alors, on pourrait dire, bien sûr, ce qui est le cas, qu'il y a un certain nombre de choses, et d'ailleurs, ça reste ça, le principal levier qu'a le Congrès pour entraver l'action du président des États-Unis, notamment de Trump, par exemple, c'est de lui refuser des crédits. D'autant des crédits, puisqu'ils ont demandé une rallonge de guerre, là, il y a quelques temps, de 200 milliards, je crois, dont avait parlé Pitexet. C'était aussi pour refaire des stocks, etc. Ça peut lui être refusé. Enfin, c'est long, ça prend du temps. Et puis, politiquement, ça a un coût aussi, parce que si vous avez une action militaire dans laquelle est engagé le pays, que le président a décidé, c'est très compliqué d'aller couper les crédits de l'armée, et ce faisant, de risquer de mettre en danger les forces armées du pays. Parce qu'à ce moment-là, vous devez aussi rendre compte devant le peuple du fait que vous avez peut-être mis en danger ces enfants qui se battent pour le pays, qui servent le pays. Donc, avec ceci, encore une fois, il ne faut pas trop grossir cette histoire pour l'instant, hein, des pouvoirs de guerre, parce que Donald Trump n'est pas du tout le premier avec ça. C'est quelque chose qui est récurrent depuis 50 ans. Chaque fois que la question se pose pour une intervention, c'était arrivé avec Obama en Libye, par exemple. Mais là, on est avec Donald Trump. Donc c'est au-delà de ça, et notamment parce que on est véritablement au-delà de ce qu'est normalement une simple opération militaire. On est très au-delà de ce qui avait été fait en Libye, par exemple. Et puis on est sur une cible aussi, qui est l'Iran, qui n'est pas du tout dans les mêmes dimensions que l'était la Libye. Et puis il y a aussi une autre chose qu'il faut quand même souligner, qui mène à l'évolution du système des pouvoirs de guerre en particulier, au détriment du Congrès, c'est que le premier et principal pouvoir en matière de guerre qui est donné au Congrès, et qui n'est pas donné au président des États-Unis, c'est la capacité de déclarer la guerre. Vous savez, je vous l'ai cité tout à l'heure, l'article 1, section 8. Il donne au Congrès et au Congrès seul la capacité de... le pouvoir exclusif de déclarer la guerre. Or, il ne vous aura pas échappé, si vous avez suivi un peu l'histoire mondiale de ces 80 dernières années, qu'on ne déclare plus les guerres. Déclarer la guerre, c'était une tradition, on va dire, d'Ancien Régime, et quelque chose qui se faisait encore, naturellement, au moment où la Constitution des États-Unis a été rédigée. Mais plus personne ne déclare des guerres aujourd'hui. Voilà. Hitler n'a pas déclaré la guerre à l'URSS au moment de l'envahir. Les Japonais n'ont pas déclaré la guerre aux États-Unis avant d'attaquer à Pearl Harbor. Les États-Unis n'ont pas déclaré la guerre lors de leurs dernières interventions militaires. La Russie, de manière Poutine, n'a pas déclaré la guerre en Ukraine. D'ailleurs, on a même tendance, en général, à nier le fait que c'est une guerre, hein, puisque on se lance toujours dans ce genre d'entreprise, puisque c'est impopulaire. Donc, vous pouvez déclarer une guerre, c'est très très compliqué. Vous pouvez déclarer la guerre, effectivement, formellement, à titre de mesure symbolique renforcée, quand vous êtes attaqué, par exemple. Là, vous pourrez déclarer formellement la guerre. Vous serez sûr d'avoir le vote. Mais quand il s'agit de faire des opérations, on va dire, militaires, de police ou de police étendue, voire simplement de déployer une grande stratégie, où il ne s'agit pas juste de se défendre, mais de préparer éventuellement d'autres choses, ce que je vous ai dit quel cas. Pour l'Iran, on est aussi dans... on est non seulement dans le traitement du problème iranien lui-même, mais aussi dans le traitement du problème global et la prévention de la guerre mondiale, en général. Donc dans ce cas-là, vous frappez sans ça. Et vous comprenez bien que cette simple évolution des mœurs, en fait, de guerre, prive le Congrès des États-Unis d'une bonne partie de son pouvoir. Parce que la Constitution ne dit pas que le Congrès a le pouvoir exclusif de déclencher des opérations militaires. Puisque ce pouvoir, il revient au commandant en chef. Non, il a le pouvoir de déclarer la guerre. Si désormais, il n'y a plus jamais de déclaration de guerre, que tout ce qu'il y a, c'est du déclenchement d'opérations militaires, alors ça veut dire que, en réalité, tout le pouvoir de déclencher la guerre a basculé du côté du président des États-Unis. D'ailleurs, en grande partie, l'idée de la résolution sur les pouvoirs de guerre votée par le Congrès, c'était ça. C'est d'essayer de se ressaisir d'un pouvoir que l'évolution des choses a fait disparaître, alors que dans l'esprit du texte, finalement, il aurait dû être maintenu. Mais le problème, c'est que tout ça, ce sont des débats juridiques sur le fond du texte, et que ce qui vous fait gagner historiquement, c'est toujours comme ça, ce genre de débat, c'est jamais le fait que vous ayez raison logiquement. C'est le fait que vous ayez la dynamique de pouvoir avec vous. Et clairement, aux États-Unis, la dynamique de pouvoir, de manière générale, elle est plutôt du côté du président qui est élu au suffrage universel, quasi direct, pas exactement direct, puisqu'il y a les grands électeurs, mais plus ça va, plus c'est vu comme ça. Aux États-Unis, et pas au Congrès. Et en plus, le président est là pour plus longtemps que ses représentants. Donc voilà quel est le débat autour de cette question, si vous voulez. Qu'à mon avis, on ne peut pas se permettre de trop résumer, parce que si vous le résumez trop, c'est pour ça que je pensais utile de le développer un peu. Encore une fois, on pourrait rentrer dans le plus technique, parce qu'il y a eu aussi des jurisprudences en 83 notamment, une jurisprudence INS versus Chada de la Cour suprême qui était sur autre chose en fait, mais qui était partiellement applicable à la résolution sur les Wars Powers, justement parce que c'était il y avait un parallélisme dans la façon dont la loi avait été adoptée par le Congrès pour limiter des pouvoirs à côté, etc. Et du coup, ça a affaibli une partie de la loi sur les Wars Powers. Enfin, encore techniquement, c'est pas important, mais enfin, c'est pour dire que le peu de jurisprudence qu'il y a eu par la Cour suprême ne portait pas précisément là-dessus. Mais elle est plutôt dans le sens d'un affaiblissement de la résolution sur les pouvoirs de guerre de 1973 que de son endossement par la Cour suprême. Donc il y a véritablement un débat là-dessus, et la dynamique du pouvoir, notamment au niveau de la Cour suprême, même si elle refuse plutôt de trancher, mais de toute façon, même quand elle refuse de trancher, vu tout ce que je vous ai expliqué, en réalité, ça donne avantage à celui qui de facto a le pouvoir. Et celui qui de facto a le pouvoir, c'est le président des États-Unis. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'il faut comprendre, parce que ça indique aussi vers quoi va évoluer, c'est typiquement ce que je vous explique, hein, c'est-à-dire c'est la transition absolutiste du pouvoir américain vers laquelle on va, c'est-à-dire un renforcement quasi continu, presque linéaire, de la fonction présidentielle, qui est de plus en plus puissante, et qui, de ce point de vue-là, est assez similaire à ce qu'était le pouvoir, justement, impérial à Rome. Puisque à Rome, en fait, je vous le savais peut-être pas, mais je vais vous le dire, les consuls, ils avaient l'imperium, et ensuite c'est l'empereur qui l'a récupéré. L'imperium, c'est le pouvoir de commandement absolu. C'est-à-dire ce pouvoir de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, ils sont obligés d'obéir, sinon vous pouvez les buter. Grosso modo, c'est ça le pouvoir, l'imperium. Et donc c'est le pouvoir d'un général sur ses soldats. D'accord ? Et les soldats à Rome étaient des citoyens, vous le savez. Et donc le pouvoir, l'imperium, ne s'appliquait qu'en dehors des frontières de la cité. Parce qu'à l'intérieur de la cité, les soldats n'étaient pas des soldats, c'était des citoyens. En dehors de la cité, ils étaient des soldats. Donc ils devaient l'obéissance absolue au général. Et ça a amené, si vous voulez, au fait que, très rapidement, les consuls qui allaient se battre et mener des guerres très importantes à l'extérieur, et donc, notamment Jules César, hein, bien sûr, puisque c'est lui qui a porté le truc le plus loin, avaient en réalité, mais c'était le cas aussi ensuite sous l'Empire, avec la transition impériale, c'est ça, avaient en réalité beaucoup plus de pouvoir sur les provinces, ou à l'extérieur de Rome, qu'à Rome elle-même, parce qu'à Rome, leur pouvoir était effectivement limité par le droit. À l'extérieur, ce n'était pas le cas. Et en fait, si vous regardez la présidence américaine, vous apercevez que c'est la même chose. C'est-à-dire que les pouvoirs présidentiels américains sont bien plus élevés à l'extérieur qu'à l'intérieur des États-Unis. À l'intérieur des États-Unis, le président des États-Unis ne peut pas faire enlever n'importe qui comme il a fait enlever Maduro. Maduro, c'est un chef d'État. Donc le président des États-Unis peut faire enlever, comme ça, sur un coup de tête presque, un chef d'État étranger, qui a le droit, légalement, à l'intérieur des États-Unis, parce que le mec n'est pas couvert par le droit américain, donc il peut le faire enlever. Par contre, il ne peut pas faire ça à l'intérieur des États-Unis. Il peut décider, naturellement, d'aller bombarder du jour au lendemain un pays comme l'Iran, massivement. Il ne peut bien sûr pas décider de bombarder le territoire des États-Unis à l'intérieur. Il n'a pas le droit. Mais il y a d'autres choses. Il peut décider de faire enlever des gens un peu partout, ce qui était le cas à l'époque de Dick Cheney, pendant la guerre contre la terreur, et tout un tas de types sur l'ensemble du globe, qu'on a enlevé, qu'on a amené ensuite à Guantanamo, etc., ou dans des prisons extraterritoriales américaines. Pourquoi extraterritoriales notamment ? Parce que ça permettait de ne pas les soumettre au droit américain. Et que donc, le pouvoir américain pouvait y faire ce qu'il voulait. Et ça, c'est typiquement du pouvoir impérial. Encore une fois, c'est César. César a plus de pouvoir à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et donc on voit cette chose qui se passe aux États-Unis, et les pouvoirs de guerre, finalement, c'est une des seules limites, avec de toute façon toujours la capacité d'accepter ou de refuser de donner l'argent, mais c'est une des seules limites à l'extérieur, à ce pouvoir extérieur du président. En dehors de ça, le Congrès n'a pas tellement de moyens de limiter le pouvoir présidentiel à l'extérieur. À l'extérieur, le président des États-Unis utilise la force armée américaine comme il veut, pour faire ce qu'il veut. Bien sûr, ça peut avoir des coups politiques ensuite, mais si vous voulez, juridiquement, il l'utilise pour faire ce qu'il veut comme il veut. Et vu que c'est de la pure force, il fait ce qu'il veut, effectivement. Et donc ça ne peut être limité que par la non-fourniture de financement par le Congrès, etc. Mais encore une fois, les intérêts stratégiques des États-Unis sont tels, et le fait que toute opération met en jeu la vie de soldats, etc., que c'est peut-être encore plus compliqué politiquement pour un Congrès de refuser l'argent et les moyens à un président qui agit à l'extérieur, plutôt que pour le président de faire toutes ces choses-là en s'asseyant sur la vie du Congrès. Donc vous voyez pourquoi la dynamique est effectivement dans le sens de la puissance présidentielle aux États-Unis. Donc cette mutation impériale progressive, en fait, assez classique, c'est une concentration du pouvoir dans les mains du président. Et il n'y a même pas besoin de faire de coup d'État. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Et à mon avis, c'est ça qu'avait compris Gödel, hein, si on doit chercher. Parce que ça demande quand même un petit peu plus de réflexion. Et pour le coup, en plus, un type comme Gödel avait pas vu les 70 dernières années de l'histoire. Et donc, moi, c'est facile, je vous l'explique. Je veux dire, on l'a vu se dérouler sous nos yeux. Pour le prévoir juste par la logique en voyant le truc, il fallait quand même être assez fort. Mais je pense que c'était ça qu'il avait compris. Et c'est que c'est une évolution naturelle de la dynamique interne des institutions et de la Constitution américaine, tout simplement et notamment parce que, au fond, la Constitution américaine, à partir du moment où elle ne règle que ce qui se passe à l'intérieur du territoire américain, eh bien, n'a plus vraiment de prise sur ce que décide de faire le président des États-Unis à l'extérieur. Voilà. Et donc, un pouvoir, forcément, qui s'applique à l'extérieur, sort de toutes ses limites. Et à partir du moment où il s'étend très largement sur l'extérieur et qu'ensuite, à partir du moment où il se met à tirer une partie de ses ressources de l'extérieur, c'est là que ça devient important, et c'est là que vous voyez toute l'importance que pourrait avoir à terme, je dis pas dans les 2 ans, mais à terme, une institution comme le Conseil de la paix, etc. À partir du moment où en plus il peut aller trouver une partie de ses moyens à l'extérieur et non plus à l'intérieur, eh bien, il n'y a plus aucun moyen de limiter ce pouvoir-là, et donc il devient de plus en plus autonome et de plus en plus absolu. Voilà. Et ça, c'est la dynamique du pouvoir telle qu'elle se met en place, telle qu'elle se développe. Et c'est typiquement ça, la dynamique impériale. C'est ce qu'on a vu avec, encore une fois, à Rome, avec la modification des institutions d'Auguste, par exemple, qui inaugure l'ère impériale romaine, si vous voulez. C'est comme ça que ça s'est passé. Voilà, donc je trouvais ça intéressant de faire un petit arrêt sur image, très rapide. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution de la fonction présidentielle aux États-Unis, et elle va de plus en plus vers ça. Et comme je le dis depuis un moment, et même à la limite comme je le dis depuis, pour le coup, depuis quasiment 20 ans, je pense que cette puissance présidentielle va encore plus s'affirmer et s'imposer, et peut-être même vraisemblablement franchir un seuil à l'occasion de ce qu'il faut bien appeler la guerre mondiale, hein, qui va se déployer, et que donc la mutation impériale se fera vraisemblablement dans la foulée. Alors, est-ce qu'elle se fera simplement sous l'ère Trump? Compliqué d'être affirmatif, hein. Il lui reste 2 ans à tirer, 2 ans et demi. Est-ce que ça suffit pour faire les modifications qu'il veut et donner l'élan au Conseil de la paix qu'il entend? Paraît un peu douteux, mais les circonstances peuvent le permettre éventuellement. Mais voilà, ça me paraissait intéressant donc de revenir sur cette idée, parce que c'est des sujets qu'on néglige très souvent. On a une vision assez fausse de la faction, de la façon dont fonctionne le système américain. Je dis, je répète, je ne vais pas le faire en détail ce soir, mais allez voir la conférence que j'ai donnée, qui est dans la liste des interventions extérieures, je crois, sur la chaîne, à l'Institut catholique de Vendée, il y a 2 mois maintenant. Ouais, il y a 2 mois. Sur la question différentielle de démocratie entre l'Europe et les États-Unis. Et ce sont des choses que j'explique, quoi. Qu'il faut pas avoir une vision fausse de la façon dont les choses fonctionnent. Le système américain, dire juste que les États-Unis c'est une démocratie, ça peut pas fonctionner comme ça. Je rappelle que le système américain est un système dans lequel les candidats politiques peuvent être littéralement achetés. On n'a pas l'équivalent en France des PAC et des super PAC. Pour soutenir les candidats. Vous avez des dons de particuliers qui sont limités, et très limités, à quelques milliers d'euros. Vous ne pouvez pas donner plus à un candidat. Aux États-Unis, vous pouvez donner des millions via des fonds créés, qui sont, on appelle les PAC, mais vous pouvez. Donc vous n'avez pas du tout la même question du rapport au pouvoir, la même question du rapport au lobby. C'est quelque chose d'encore très différent. Alors je dis pas que du coup ça veut dire que chez nous les types sont blanc-bleus et qu'ils n'ont jamais de rapport, qu'il n'y a pas de corruption, etc. C'est différent. Mais chez nous, c'est tout de suite de la corruption. Donc déjà, ça veut dire que vous avez tout un tas de mecs qui se freinent. Alors que là-bas, c'est normal. Je veux dire, ça fait partie du système. C'est considéré normal comme ça. C'est aussi pour ça que dans les, si vous regardez dans les, moi c'est un truc qui m'amusait beaucoup quand j'étais adolescent, je m'apercevais que dans les films américains, ils avaient toujours l'air d'avoir une vision des politiciens qui était beaucoup plus noire encore que ce qu'on pouvait voir chez nous. Chez nous, la critique du politicien, on dira souvent que c'est le type un peu con, un peu incompétent, inutile, ce que vous voulez. Aux États-Unis, il y a toujours la vision du politicien comme étant un type qui va vous la mettre, quoi. Qui est un tordu, qui est un corrompu, etc. Et ça vient beaucoup du fait qu'on n'évolue pas, en fait, dans le même système. Donc c'est bien, je trouve, de faire un petit arrêt sur image là-dessus. Et c'est pas, encore une fois, c'est pas... effectivement, ça n'a rien de... Je vous vends pas du rêve, mais ça, je l'ai toujours dit. Je veux dire, historionomiquement, il y a rien de très joyeux à attendre de l'évolution interne des États-Unis, très clairement. Et voilà, c'était l'occasion de décrire ça ce soir. On va voir s'il y a quelques... Alors, ouais, du coup, je parlais plus longuement que je pensais de ces questions techniques, donc je vais pas faire des grands développements sur la situation géostratégique en général. Je vous renverrai au format flash que j'ai fait sur le calcul rationnel qui pourrait pousser la Russie à faire la guerre aux Pays-Baltes dans un délai assez restreint. De plus en plus, on parle l'autre jour, j'ai entendu un officier, je sais plus où, qui disait que la fenêtre, grosso modo, pour que les Russes puissent attaquer, se fermera en 2030, parce que à ce moment-là, l'Europe rattraperait, et donc d'une certaine manière, pour lui, elle s'ouvrirait en 2027. Bon, moi, je continue de penser que ça peut s'ouvrir plus tôt, courant 2026. Là aujourd'hui, j'ai entendu, il y a des rumeurs qui sortent du côté ukrainien sur le fait que les Russes pourraient utiliser des armes nucléaires tactiques en Ukraine. Ça, j'y crois pas trop dans l'immédiat. À mon avis, je verrais plutôt une attaque sur les Pays-Baltes avant l'usage du nucléaire tactique, même en Ukraine. Ça n'a pas grand sens. Même si les Russes patinent énormément depuis quelques semaines. Très difficile d'interpréter exactement à cause de quoi. Semble-t-il beaucoup, c'est dû à cause de Starlink, etc. Mais... est-ce que c'est dû aussi au passage discret vers une posture plus défensive parce qu'ils retirent des troupes pour aller faire autre chose? C'est compliqué à savoir exactement. Ce qui est assez clair, c'est que, à mon avis, là, à ce stade, les Russes et les Chinois doivent commencer à tirer d'autres enseignements de la guerre en Ukraine, en Iran. Ils ont vu la démonstration de force qu'était l'attaque américaine. Sans aucun doute. Maintenant, il voit aussi que il y a le fait que les Américains jusqu'ici aient refusé, que Donald Trump ait refusé de lancer des troupes au sol, ça envoie un message un peu contradictoire qui est en gros, on ne veut pas aller au-delà de ça. Ce qui est quand même, à mon sens, donne une image de faiblesse. Parce que ça permet aux Chinois comme aux Russes de se dire, bon, grosso modo, le risque, si on entre en confrontation avec les Américains, c'est de se prendre une branlée par voie des airs. On perdrait énormément de matériel, etc. Mais qu'en gros, il suffirait de faire le dos rond pour que ça aille pas plus loin, ou que ça tienne. Qu'ensuite, ils tentent les blocus, etc. Mais à la limite, les blocus, on peut survivre, et puis on ne sait pas combien de temps ils vont réussir à tenir cette histoire-là, puisqu'il y a la pression internationale. Donc, ce que je vous avais dit à propos de l'intervention en Iran, pour moi, ça vaut toujours. Ce que je vous avais dit vis-à-vis des Russes, c'est que, quel que soit le tour que ça prendrait, ça donnerait le sentiment aux Russes, dans un premier temps en tout cas, que d'une faiblesse américaine. C'est-à-dire que si les Américains continuent à bombarder, donc utiliser des munitions, ou même à envoyer des troupes au sol... les Russes se diraient, ils sont occupés en Iran, donc il y a moyen qu'on fasse des trucs ailleurs contre l'OTAN dans les Pays-Baltes, etc. Si les Américains arrêtaient les opérations militaires et disaient, comme ils le font là actuellement, par exemple, on maintient le blocus, mais on ne cherche pas à aller plus loin, on ne va pas sur Terre, etc., les Russes peuvent se dire ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire, du coup, ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts à aller à la cogne véritablement non plus. Donc dans les deux cas, de toute façon, pour moi, du côté russe, on est entré dans ce mode d'interprétation. qui est que tout est interprété comme une faiblesse américaine, et qu'au fond, d'une certaine manière, ce qu'on entend dans nos médias est un peu un révélateur de ça. C'est-à-dire cette idée que, actuellement, si vous écoutez encore une fois, parce que je m'en suis assez plaint, tout est un signe de faiblesse de Trump, en fait, si vous les écoutez. Et ben, je pense que les Russes réfléchissent aussi de la même manière. Et donc, même si il y avait une rupture qui se faisait au sein du pouvoir iranien dans les semaines qui viennent, sans que les Américains aient le sol, ben, ça enverrait certes un signal qui est, en gros, oui, les Américains ont pu faire s'effondrer le régime iranien en tapant dessus avec des bombes. Donc ça pourrait faire un peu peur aux Chinois et aux Russes. Mais ça maintiendrait également le signal de « ouais, mais ils n'ont quand même pas osé aller au sol. Donc ils n'iront pas au sol contre nous aussi. » Donc, à mon avis, voilà, ça fait partie des choses aussi qui vont déterminer les autres joueurs dans cette direction-là. Voilà, je voulais parler d'autre chose aussi, c'est-à-dire éventuellement le déploiement technologique. J'ai déjà fait une petite vidéo sur les robots, mais je voudrais articuler ça avec le Golden Dome, éventuellement, etc. Mais ça va faire trop pour ce soir, donc on va s'arrêter là et on verra ça à une prochaine fois. Je vais regarder qu'est-ce que vous avez envoyé éventuellement comme message pendant le truc, notre cher Iruma. Question choix, Marie-Julie Jani vous inspire-t-elle? Ah oui, c'est une mystique qui avait eu des visions... non. Non, de fait non, puisque j'ai jamais fait de commentaire au regard de ce qu'elle a dit. Je crois que c'est notre cher Iruma d'ailleurs qui avait partagé des trucs là-dessus, ou qui avait repris de quelqu'un qui l'avait partagé sur le canal, mais non, je dirais pas que ça m'inspire pas. Mathy, merci pour le don. Que vous inspirent les polémiques Crousty-Poulet et celles autour des fameux banquets? Alors, j'ai pas suivi honnêtement la polémique Crousty-Poulet. J'ai vaguement compris qu'il y a des gens qui se plaignent quand il y a un Crousty-Poulet qui ouvre, parce que c'est désagréable, que ça charrie de la population, qu'il y a des livreurs Uber qui attendent devant, etc. Et de l'autre côté, il y a celle des banquets, oui, c'est quoi, c'est le canon français, c'est ça? Les gens, saucisson pinard, le truc, et c'est vu comme facho. Qu'est-ce que ça m'inspire? C'est le nouveau clivage. Crousty-Poulet versus les banquets. C'est ça. C'est une synthèse du nouveau clivage. La nouvelle France versus l'ancienne France, dans la façon dont ils sont fantasmés. Alors, c'est un petit côté marrant, quand même, que ça se cristallise autour d'éléments gastronomiques. Mais ce que ça m'inspire, c'est ça. C'est que c'est assez classique. L'ancienne France, on va dire, ne supporte pas le Crousty-Poulet parce que ça paraît une insulte au bon goût. Et qu'en plus, ça charrie des désagréments, semble-t-il, qu'on attribue classiquement à l'immigration, hein, tout simplement. Des gens bruyants qui viennent, qu'on attribue depuis longtemps à l'immigration. Hein, on a toujours reproché aux immigrés d'être bruyants et d'avoir des mœurs particulières. C'était déjà le cas de l'immigration espagnole jadis, qui ne faisait pas de Crousty-Poulet. Je ne sais pas si les gens se plaignaient de la paella à l'époque. Voilà. Et de l'autre côté, les banquets sont vus comme exclusifs de la nouvelle population, donc forcément facho. Donc c'est ça. C'est illustration du nouveau clivage. Guldave Legueux. Que pensez de la création du fameux bouclier démocratique européen monté par Clément Beaune et Nathalie Loiseau? Quelle influence cela aurait sur les présidentielles 2027? Alors c'est tout ce qui est le système de censure et trucs comme ça. Excusez-moi parce que c'est un sujet que j'ai passé énormément de temps sur la préparation de la revue déjà d'une part et d'autre part sur le suivi de l'actualité en Iran. Donc l'actualité propre, j'ai pas fait d'émission dessus depuis un moment, donc j'en ai peu parlé. Quel impact ça aurait sur les présidentielles 2027? Je sais pas, c'est assez difficile à mesurer. Est-ce que ça aura vraiment un impact? Je vais regarder, tiens, qu'est-ce que c'est les mesures principales qui sont prévues dans ce truc. Mettez des pouces, j'ai oublié de vous le redire. Je sais même pas combien vous êtes. Parce que ça s'actualise pas ici. Ouais, vous êtes 480. Ouais, y a moyen d'avoir au moins 200 ou 250 pouces là quand même. Bouclier européen pour la démocratie, initiative de la Commission européenne présentée le 12 novembre 2025, protéger et renforcer les démocraties de l'UE face aux menaces d'information, oui, ça on connaît, cyberattaques, etc. Trois piliers principaux, ah oui, ils adorent les piliers en droit européen, ça, c'est un souvenir de cauchemar de mes cours de droit européen. Préserver l'intégrité de l'espace informationnel, code de conduite de la désinformation, le DSA, oui, alors ça d'accord, le DSA je connais. Création d'un réseau européen indépendant de vérificateurs de faits. Je ne sais pas où ça en est, ça d'ailleurs, parce qu'on a plutôt l'impression que les fact-checkers disparaissent plutôt qu'ils ne se renforcent depuis 6 mois. Développement de capacité de monitoring. Ensuite, renforcement du 1 en matière d'élection. Orientation sur l'utilisation responsable de l'IA. Recommandations et guides de pratique sur la sécurité. Bon, il y a beaucoup de blabla. Hein. Beaucoup de blabla. Mesures pour l'éducation aux médias au numérique. Je sais pas, c'est difficile de savoir quel impact ça peut avoir véritablement. Moi je pense qu'on n'empêche pas les gens de penser ce qu'ils pensent, même en période de censure. Hein. Donc je suis pas sûr que ça peut avoir un effet véritablement déterminant, ce genre de choses. Mais il faudrait que je m'y penche plus. Alyosha, merci pour le don des dollars pour se préparer à l'Empire. On s'y prépare. On s'y prépare. La volonté d'interdire le VPN, me dit Marvin. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça y soit déjà dedans. J'ai cru comprendre qu'on en parlait, mais il me semble que c'est détaché de ça, que c'est nouveau, que c'est plus récent. Le reste, ça date de novembre dernier. Il me semble pas qu'on parlait du VPN à cette époque-là. Mais c'est peut-être une excroissance de ça. Hein. Et ça paraît, ça paraît hallucinant, surtout qu'on ne sait pas trop s'ils comprennent bien de quoi il s'agit à chaque fois, donc ça paraît douteux. Voilà, bon, ben on arrive au bout d'une heure. Je vous rappelle, je vais vous réafficher la petite affiche justement, à propos du congrès, pour ceux que ça intéresse. Je vous rappelle de ne pas hésiter à nous soutenir. On va dire merci d'ailleurs aux gens qui nous soutiennent. On va dire merci à Yukio pour son généreux type mensuel, qu'il en soit éminemment salué. Merci à Martin pour son type, qui apparemment il a beaucoup aimé l'émission de la semaine dernière sur l'Empire Panturc et la géographie, la géostratégie de la Turquie. J'en suis très heureux. On va voir aussi quels sont les derniers membres à être arrivés, s'il y en a. Ed Dupéré qui nous a rejoint, merci beaucoup. Grimsnir Cosmo aussi, merci beaucoup. Et merci à Didier Di Fusco qui est passé au niveau supérieur dans sa souscription pour nous aider, ce qui est extrêmement gentil, ça nous motive et ça nous aide à multiplier les contenus. Encore une fois, on est passé au format flash maintenant. J'essaie de vous en faire deux par semaine. Encore une fois, ça dépend de mon degré d'inspiration. Des semaines, il y en aura peut-être plus, des semaines moins, mais ça permet de détailler les sujets. C'est en plus de tout le reste. Il y a pas énormément de... Enfin, il y a moins de vues en général que les lives, mais c'est aussi parce que du coup, c'est plus compliqué pour les faire pousser par l'algorithme. Mais je remarque qu'il y a toujours les 4-5 000 personnes qui sont les mêmes, en fait, qui regardent d'ailleurs l'intégralité des lives. Et je ne peux pas m'empêcher de me souvenir qu'il n'y a que 10% de ces gens qui regardent absolument tout le contenu gratuit. Qui nous soutiennent effectivement. Donc si vous faites partie de ces gens, de ces 5000 personnes qui regardent absolument tout ce qui est gratuit, pensez à laisser un petit tip de temps en temps quand même pour aider. Ça serait bien gentil. Docteur Sherlock, est-ce que la France a la bonne attitude dans le conflit USA versus Iran? Moi, je pense pas. Je pense qu'on est faiblard. Je pense qu'il y a des guerres dont on veut se tenir à l'écart et à la fin tout ce qu'on gagne c'est que ça fait comme si on les avait perdus. J'ai vu Macron l'autre jour expliquer à ce type dans je sais pas quel salon là, ça, il a été pris sur le vif, expliquer qu'il fallait rouvrir ce fichu Détroit, c'est ça que je l'ai entendu dire, il faut rouvrir ce fichu Détroit. Alors j'ai trouvé ça amusant parce que il a quand même fait voter la France à l'ONU contre la résolution des pays arabes qui voulaient intervenir pour le rouvrir, et il s'est moqué de Donald Trump quand Donald Trump a demandé l'assistance, l'aide des pays européens pour aider à rouvrir le Détroit militairement. Donc voilà, ça envoie un signal un peu merdique. Et puis sur le volet libanais, j'en ai parlé pendant la dernière mission, donc j'y reviens pas, mais voilà. Matt Broshaker, merci pour le don. Sur un article du Grand Continent du 10 février, il était expliqué que l'Estonie jugeait faible la probabilité d'une attaque russe. Oui, c'est vrai. Les services de renseignement des pays baltes n'ont pas l'air de croire à une imminence de cette attaque. Ce qui est tant mieux pour eux. Du coup, encore une fois, peut-être que je me trompe, mais à la limite, je vous dirais quand même si je ne donnais que mon avis personnel et mon sentiment, mon pur sentiment de moi. Je vous dirais effectivement, je ne les vois pas attaquer tout de suite. Maintenant, je ne peux pas m'empêcher de me dire que le modèle, lui, a tendance à montrer qu'il risque de rattaquer bientôt. Et donc, je vous le dis comme ça parce que, bon, moi, mon avis personnel, on s'en fout un peu. La plupart d'entre vous, si vous êtes ici, c'est parce que vous pensez que les modèles sont intéressants. Et sur ce point-là, effectivement, on ne voit pas d'éléments concrets. Maintenant, le modèle a tendance à dire que, au moment de ça, ça devrait prendre la forme d'une surprise quand même assez nette. Donc le fait que les gens s'y attendent pas immédiatement, ça paraît cohérent, quoi. Voilà, ça paraît cohérent. Et il y a quand même des préparatifs qui sont faits en Biélorussie avec le déploiement de stations de drones. Il y en a 4. La création de milices aussi. Le long des frontières baltes et finlandaises qui peuvent être une moyen de couverture pour déployer des troupes, voilà. Alors, peut-être qu'ils ne s'attendent pas, mais moi je pense qu'il y a un danger. J'espère pour eux me tromper. Et pour cet auditeur l'autre jour qui disait qu'il avait prévu de partir en vacances dans les pays baltes cet été, j'espère pour lui que ça n'arrivera pas. Voilà. Mais je crains qu'il y ait une chance que ça arrive. Et merci Dr Sherlock pour le don. Manu, c'est un peu OSS 117, oui, c'est ce que beaucoup de gens pensent depuis des années. Maintenant on commence à nous parler du fait qu'il est extrêmement populaire en Europe. Bon, il y a 49% d'opinion favorable, ça reste minoritaire, mais il a un discours, ce qui est très clair, c'est qu'il a un discours qui résonne avec le discours européiste de tous les pays. Voilà. Bien, écoutez, on arrive au terme de cette émission. Je vais vous dire à tout de suite pour nos chers souscripteurs, à très bientôt pour les autres. Encore une fois, n'hésitez pas à envoyer un message si le congrès vous intéresse. N'hésitez pas à faire un tour sur Amazon aussi pour voir les livres. Hein. Encore une fois, si l'historionomie vous intéresse, le meilleur moyen de s'y plonger dedans et de comprendre, c'est à travers les bouquins. Et c'est aussi un autre moyen, un moyen alternatif de nous soutenir. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux formats. Attendez, Dr Sherlock, une autre question. Bonsoir, à ce stade, Manu va probablement finir son mandat. Et si on repartait sur 5 ans de macronisme avec Édouard Philippe ? Je pense pas. Pour moi, ça, de toute façon, on est déjà entré dans la transition vers autre chose. Je vois pas quelle majorité pourrait avoir un Édouard Philippe. Qui est toujours une figure présidentielle, pourquoi pas, mais de toute façon, il faudra que je refasse une émission là-dessus pour essayer de anticiper. Ça fait un moment que je n'ai pas fait d'émission proprement sur la France. Mais de toute façon, pour moi, la transformation institutionnelle, elle vient du renforcement du Parlement essentiellement. Si vous faites le parallèle avec ce qui s'est passé faudrait creuser du côté institutionnellement, faudrait que j'aille fouiller plus nettement sur l'équilibre des pouvoirs internes en Ukraine dans les années notamment Porochenko, pour voir quelle a été l'évolution. Non, là, ils sont rebasculés sur la réforme de 2004 qui avait été plus ou moins abrogée par la Cour constitutionnelle. Je pense qu'il y a, voilà, l'essentiel, encore une fois, là, il y a eu une rupture avec la motion de censure, avec, selon moi, un affaiblissement du pouvoir présidentiel. Les prochaines réformes véritablement révolutionnaires, c'est des réformes profondément structurelles sur l'ensemble de l'appareil d'État. C'est-à-dire, c'est plus tellement la question de qui est président de la République, qui est le Parlement, c'est quel est le rôle que se donne le Parlement. On a déjà vu le Parlement se saisir et faire des choses qui sont assez typiques des phases de révolutionnaires. Avec la parlementarisation, c'est tout d'un coup le Parlement qui s'occupe d'un tas de trucs, hein, j'en ai déjà parlé, qui fait des commissions sur un peu tout. Donc vous avez eu la commission qui est allée au terme et qui va publier son rapport d'Alloncle sur le service public, qui peut avoir des conséquences importantes. Notamment, Bardella a évoqué le fait que s'ils arrivent au pouvoir, ils le privatiseront. Alors même s'il est peu privatisé, il risque d'avoir des réformes importantes. Désormais, Ciotti veut faire aussi une commission sur l'immigration, donc ça peut préparer aussi pas mal de choses. Il y a tout un discours qui commence à muter sur la question de la place des retraites, etc. Désormais, ça devient presque mainstream comme sujet. Voilà, donc à mon avis, c'est plutôt sur ces réformes de structure qu'on se dirige. Et le côté institutionnel, il est déjà passé en partie. Voilà. Mais il faut que je refasse prochainement une émission complète là-dessus pour faire le point. D'ici là, à bientôt, vous laissez pas faire. Quand il n'y en a plus encore, je vous fais une pause générique, hein, puisque je vois que j'ai raté la question de Bebe, donc je vais lui répondre. Qui me demandait, donc merci pour le don, quel est le stade historionomique de l'UE? Est-on sûr qu'on n'aille pas vers une transition absolutiste plutôt qu'une ERN? Alors, c'est une question que je me suis énormément posée. Et très honnêtement, alors dans ce petit bouquin, la chute de l'Empire européen, l'UE connaît une transition tardive vers c'est ce que j'appelle comment est-ce que j'appelle ça dans le bouquin ? C'est un modèle tardif, en fait. Il y a le modèle continu et le modèle tardif. La construction nationale française, c'est un modèle continu, en fait. Hein, ça se développe comme ça. Ce que j'appelle modèle tardif, c'est comme l'Allemagne ou comme l'Italie, qui font leur unité, qui font l'essentiel de leur évolution en étant fragmentés, et qui, tout d'un coup, font leur unité tardivement, tout simplement. C'est-à-dire en 1870, unité allemande, unité italienne en même temps. Et donc, pour moi, l'Europe, ça répond à ce modèle-là. C'est-à-dire que, à partir du traité de Rome, et progressivement ce qui s'est passé depuis, et peut-être encore plus à partir du traité de Maastricht, c'est un modèle d'unification tardive. Dans lequel donc une bonne partie des appareils d'État existent déjà à l'échelle locale et dans lesquels le pouvoir central est essentiellement un pouvoir fédéral qui n'est peut-être pas très puissant dans sa structure d'emploi, c'est-à-dire qui n'a pas d'énormes administrations, etc., mais qui est très puissant juridiquement. C'est-à-dire que c'est lui qui de fait soumet les administrations locales en leur imposant ces normes, ce que fait très largement l'Union européenne. Donc, je continue de penser que l'Union européenne est à un stade historique de fin d'Ancien Régime, en particulier depuis le traité de Maastricht. Voilà, qu'on a une espèce de rattrapage comme ça, mais d'un système qui est déjà assez mature. Donc je ne pense pas qu'on aille vers une transition absolutiste, très honnêtement. Je pense que c'est un stade qu'on a dépassé depuis un moment. J'avais déjà décrit, je crois, le fait que sur un certain nombre de plans, notamment le plan juridique, l'Union européenne peut être considérée comme déjà plus uniforme que ne l'est le système fédéral américain, avec tout le tas de normes européennes qui ont été mises en place depuis 50 ans. Donc pour moi, on est vraiment en fin d'absolutisme, et donc en future sortie d'absolutisme, plutôt que qu'en entrée. Voilà. Voilà, donc pour répondre à cette question qui m'a été posée, maintenant je mets fin au streaming.